France Culture.
La science CQFD, Antoine Beauchamp.
C'est un monde qui fascine depuis toujours, sans doute parce qu'il est en bonne partie inaccessible, celui de la vie prénatale. Aujourd'hui, la recherche sur le sujet est particulièrement dynamique et elle lève de plus en plus le voile sur le développement fœtal. Peut-être pourrions-nous donner des clés aux chercheurs si on se souvenait de notre vie fœtale. Malheureusement, notre cerveau en pleine formation à ce stade ne nous permet pas d'en garder une mémoire. C'est d'ailleurs sur le développement cérébral au stade fœtal que la recherche réalise depuis quelques années des avancées. Que sait-on de ce premier développement cérébral? Qu'est-ce qui peut troubler son bon déroulé? Et avec quelles conséquences sur la vie après la naissance? On fait le point aujourd'hui sur les nombreux enjeux qui sous-tendent la recherche prénatale. Vie fœtale. Développement en cours. Bonjour Jessica Dubois.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'INSERM, spécialiste du neurodéveloppement et de son imagerie. Et bonjour Arnaud Cacquia.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neurosciences à l'Université Paris-Cité, directeur adjoint du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, le LAPSIDÉ, une unité mixte de recherche CNRS et Université Paris-Cité. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez comme chaque jour retrouver une sélection de liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la science CQFD, mais aussi bien sûr sur notre compte Blue Sky, @sciencecqfd. Alors on va parler aujourd'hui du développement fœtal et notamment du développement cérébral des fœtus. On va bien sûr plonger dans les récentes découvertes sur ce sujet et mettre en avant les méthodes aujourd'hui à la disposition des sciences pour comprendre ces premiers stades du développement. On abordera également la question des troubles qui peuvent être provoqués à ce stade de l'existence et des conséquences de ces troubles sur la vie postnatale. On verra que les recherches sur ces thématiques comportent des enjeux cliniques de premier ordre, mais aussi des enjeux éthiques et philosophiques. Et pour initier notre conversation, Jessica Dubois et Arnaud Cacquia, je vous propose l'écoute d'une archive qui va nous permettre de faire une première distinction. Écoutez le gynécologue et obstétricien Roger Henrion parler de l'embryoscopie. C'était le 25 août 1981 dans le journal télévisé de TF1.
L'embryoscopie est une méthode, qui est la méthode la plus récente d'ailleurs, qui consiste à introduire par les voies génitales de la femme, par le vagin, puis par le col de l'utérus, un système optique de 6 mm de diamètre, qui ne fait absolument pas mal, que l'on va mettre juste au contact de la poche des os, de façon à voir le fœtus,
l'embryon.
Voir l'embryon juste à l'intérieur de l'utérus.
Comment est-ce que vous le définissez, l'embryon ?
L'embryon se définit parce qu'il n'a pas atteint 3 mois. Jusqu'à 3 mois, il s'agit d'un embryon. À partir de 3 mois, il s'agit d'un fœtus. C'est-à-dire que la partie embryonnaire, c'est la mise en place des structures du fœtus. Et le fœtus, c'est le développement des organes.
Alors, cet embryon que nous allons voir, à quoi est-ce que ça vous sert, vous, de le regarder si précocement ?
Cela nous sert pour dépister des malformations externes que l'on pouvait voir déjà grâce à l'échographie, mais malheureusement plus tardivement. Et si l'on pouvait voir précocement grâce à l'embryoscopie des malformations, par exemple des grosses malformations des membres, de la tête, de la colonne vertébrale, ce que nous appelons des grosses spina bifida, cela permettrait de faire, si le couple désire, des interruptions de grossesse beaucoup plus précoces qu'avec le procédé de l'échographie.
Voilà, Jessica Dubois, dans cet archive, j'entends deux choses. Déjà, ce besoin qu'a la recherche, qu'ont les médecins, d'accéder à cet invisible qu'est cet espace utérin. Ça, c'est un domaine où on a fait beaucoup de progrès depuis quelques décennies, cette imagerie de la vie intra-utérine.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, aujourd'hui, ça passe beaucoup à cet âge-là, chez le tout petit, par l'échographie, qui est citée déjà dans le documentaire, et par échographie qui elle-même a fait énormément de progrès depuis les années 80 et qui nous permet de voir énormément de choses au niveau du tout petit, du fœtus en développement.
Arnaud Cacquia, que vous inspire cette archive-là et qu'est-ce que vous entendez à son écoute?
Peut-être que le grand changement qu'il y a depuis les années 80, c'est que
À l'époque, avec l'embryoscopie, on pouvait voir la formation des membres et de l'embryon de manière générale. Maintenant, on a des enjeux, et notamment chez le fœtus, c'est de voir le cerveau en développement. Et donc ça, c'est un organe qui est encore plus difficile d'accès parce qu'il est protégé par le crâne et lui-même qui est dans in utero.
Donc, on va parler bien sûr justement de ce développement cérébral tout au long de cette heure, au stade fœtal. Jessica Dubois, il y a aussi une autre distinction qu'on peut faire à la suite de cette archive, c'est cette distinction entre embryon et fœtus. Rappelez un petit peu à partir de quand et à partir de quels critères physiologiques on parle de fœtus.
Alors, comme il est indiqué dans l'archive, effectivement, l'embryon va être caractérisé par le fait que il n'est pas encore très reconnaissable comme petit humain. C'est l'ensemble de son organisation qui va être mise en place pendant l'embryogenèse. Tandis qu'effectivement, chez le fœtus, vers 3 mois, comme l'indique le documentaire, tout est déjà en place, mais les organes vont se développer, grandir, jusqu'à obtenir le nouveau-né de 3 kilos dont on a l'habitude.
On va, bien sûr, je le disais, Arnaud Caca, se concentrer sur ce développement cérébral. Est-ce que cette question du développement cérébral est plus complexe à étudier que le développement d'autres organes au stade fœtal?
Alors déjà, il y a le fait que c'est plus compliqué parce que le cerveau, comme je le disais tout à l'heure, est protégé par des os. Et donc, par exemple, l'échographie peut avoir quelques difficultés à voir le cerveau. Et par ailleurs, la structure tissulaire du cerveau est complexe avec différents types de tissus qui, en plus, vont varier en fonction du moment du développement.
Jessica Dubois, puisqu'on parle du développement du cerveau, j'aimerais qu'on fasse un peu de neurophysiologie et qu'on parle des conditions nécessaires, des prérequis pour qu'un cerveau se développe au stade fœtal chez l'embryon. Quelles sont les grandes étapes de la formation du cerveau? Parce que c'est une mécanique assez incroyable.
Alors, déjà chez l'embryon, effectivement, on a d'abord des structures qui vont se former comme le tube neural, puis différentes vésicules. Et chez le fœtus, ce qui va ensuite se passer, c'est vraiment cette prolifération des neurones au niveau de zones qu'on appelle des zones germinatives. Donc ces neurones, ils vont proliférer au niveau de ces zones et puis ils vont migrer vers des régions qui vont devenir des régions dites de substances grises, notamment le cortex qui est en périphérie du cerveau. Donc cette prolifération et cette migration des neurones, ça commence assez tôt, vers 4 mois de grossesse, c'est déjà très intense, jusqu'à 7 mois environ de grossesse. Et puis les neurones, une fois qu'ils sont en place, ils vont commencer à pousser leur connexion, on va dire ça comme ça, pour échanger des informations avec les autres neurones. Et donc ça, c'est un phénomène très important à partir de 6 mois de grossesse et qui perdure aussi après la naissance.
Pour qu'on ait une idée de l'ordre de grandeur, parce que vous parlez de prolifération de neurones, c'est vraiment un bouillon de culture, quoi. À ce stade-là, c'est une quantité astronomique.
Des millions de neurones, oui.
Des millions de neurones qui sont produits. Et plus jamais on atteint après dans notre vie ce niveau de production de neurones. Et même à partir de la naissance, il commence à y avoir un peu de tri qui est fait.
Oui, alors effectivement, la prolifération des neurones, c'est vraiment un phénomène prénatal pour l'ensemble des régions du cerveau, sauf dans certaines structures particulières dans lesquelles on retrouvera des neurones qui se forment plus tardivement après la naissance, notamment l'hippocampe. Mais ensuite, ce qui va aussi beaucoup changer, c'est les connexions entre neurones, notamment avec la formation des synapses. Et donc ça, c'est également extrêmement intense en fin de grossesse et puis après la naissance, avec aussi une surproduction et une élimination qu'on dit sélective en fonction des stimulations du petit.
Quand on parle d'élimination, est-ce qu'on parle d'apoptose? Est-ce que ce sont des cellules qui disparaissent ou bien est-ce qu'elles sont juste reroutées vers d'autres fonctions?
Alors, ce sont pas les neurones qui vont disparaître, ce sont vraiment les connexions entre ces neurones qui vont disparaître.
Arnaud Caca, j'évoquais aussi en début d'émission un peu par malice le fait qu'on pouvait pas se souvenir de notre stade fœtal. Et ça, il y a des raisons, justement, dans cette prolifération-là, neuronale. C'est parce que notre cerveau carbure trop qu'on ne se souvient pas de notre vie fœtale.
C'est une des théories qui est actuellement qui met un lien entre la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones, qui va permettre donc la création de nouvelles synapses, de nouvelles connexions entre neurones. Et cette neurogénèse, en fait, ne permet pas au souvenir de s'ancrer. Et donc, il y a des études, par exemple, qui ont été faites récemment chez l'animal, chez la souris, qui montrent que, à l'âge adulte, si on recrée une période de neurogénèse chez la souris, eh bien, on observe une amnésie infantile telle que on l'observe chez l'animal et puis chez l'enfant aussi. Donc, cette amnésie infantile qui est connue chez l'humain, en réalité, ça traduit le fait que le cerveau est très plastique à ces âges de la vie et que on a une prolifération et de neurones et de synapses qui empêchent les souvenirs de se cristalliser.
Jessica Dubois, quand on pense à l'accès finalement à la vie du fœtus et aux instruments qu'on a à disposition pour observer ce développement fœtal, on pense notamment à l'échographie qui permet de voir le fœtus et d'entendre son rythme cardiaque. Qu'est-ce que ça nous permet finalement de documenter de façon précise concernant son état et son développement, cet outil utilisé en routine, on va dire?
Alors, l'échographie permet vraiment de très bien voir le fœtus. Alors, pas simplement l'ensemble de son corps, mais même des structures vraiment micro, très petites, comme son cœur. C'est vraiment très, très, très surprenant. Mmh. Mais même au niveau global, en fait, ça permet de voir le fœtus bouger, de le voir bouger ses différents membres, notamment ses mains, bouger en réaction avec d'éventuelles stimulations externes au ventre de la maman et de le voir évoluer dans son milieu naturel.
Et pourtant, là, aujourd'hui, on va parler du développement du cerveau et j'ai l'impression que l'échographie, qui est déjà un instrument formidable, hein, loin de moi de l'idée de minimiser l'efficacité de cet outil, mais est-ce que cet outil est utile pour étudier le développement du cerveau d'un fœtus ou bien est-ce que dans le domaine, on a encore, d'une certaine façon, une boîte à outils un peu lacunaire?
Alors, en échographie, on va pouvoir voir certaines choses au niveau du cerveau, mais principalement détecter s'il y a des grosses anomalies. Comme le disait Arnaud, c'est une structure qui est difficile d'accès quand même avec l'échographie. Après, on va pouvoir utiliser d'autres techniques qui sont un petit peu plus précises, mais pas forcément très faciles à mettre en œuvre chez le fœtus, notamment l'imagerie par résonance magnétique, qui va permettre de, là, pour le coup, vraiment voir très finement le cerveau.
Parce que Arnaud Caquet, on peut pas mettre des électrodes, et heureusement, sur le crâne d'un fœtus. Comment on fait, du coup, comment ça se passe, cette IRM-là?
Alors, l'IRM permet de voir à la fois la structure du cerveau et aussi son fonctionnement. C'est ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. Et donc, on sait maintenant regarder avec l'IRM fonctionnel l'activité du cerveau du fœtus, tout comme on peut regarder l'activité du cerveau du nouveau-né, du bébé, de l'enfant et de l'adulte. Avec la contrainte très forte, c'est que en imagerie comme en photo, quand il y a un mouvement, ça devient flou et le cerveau du fœtus et le fœtus lui-même bougent, surtout quand il est petit, il peut encore être assez mobile in utero. Et donc, il y a cette difficulté de pouvoir faire une image en limitant autant que possible le mouvement.
Jessica Dubois.
Je voulais juste rebondir sur le fait que vous disiez qu'on ne pouvait pas mettre de petits casques ou de petits filets d'électrodes sur la tête d'un fœtus. Effectivement, c'est le cas, mais on a quand même une technique qui permet d'avoir accès à l'activité du cerveau du fœtus, qui est la magnétoencéphalographie. En fait, c'est une technique qui va enregistrer les champs magnétiques qui sont générés par l'activité du cerveau du fœtus. Et en fait, on peut placer l'ensemble du ventre de la maman dans un système de MEG pour enregistrer l'activité du fœtus.
Aujourd'hui, Arnaud Caquia, concernant ce développement cérébral du fœtus, quelles sont les grandes questions qui sont sur la table, qui sont encore irrésolues et auxquelles vous vous attaquez en tant que chercheur?
En réalité, que ce soit au niveau des questions scientifiques, tout comme les méthodes, on arrive sur le développement du fœtus aux questions qu'on se posait il y a à peu près une trentaine d'années, quand l'IRM, quand l'EEG, quand la MEG ont été développés pour la recherche en neurosciences dans le cerveau de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Maintenant, on peut poser exactement les mêmes questions parce que les outils sont suffisamment matures, suffisamment sophistiqués pour étudier le cerveau en développement. Et donc, les questions générales, c'est comment le cerveau se développe, pourquoi et comment il a la forme typique d'un cerveau plissé, quels sont les mécanismes à l'œuvre, est-ce qu'on peut utiliser ces informations de plissement comme des signes particuliers de qualité du développement, comment le cerveau fonctionne, à partir de quel âge, quel est le rôle des axones qui commencent à se mettre en place pour transmettre l'information. vraiment toutes les questions que l'on commence à auxquelles on peut répondre dans le cerveau après la naissance, on commence à se poser des questions sur ce qui se passe avant la naissance.
Jessica Dubois, sur ces grandes questions-là, est-ce que vous en voyez d'autres ? Là, Arnaud Caca parlait à l'instant de ces plissures, ces plissements, ces gyries, comme on les appelle dans le cerveau. À partir de quand on peut dater ces plissures-là et quels effets elles ont sur la cognition, par exemple ?
Alors, ces plissements, ils vont se former à partir principalement de 6 mois de grossesse, jusqu'à pendant tout le dernier trimestre, il y a vraiment une formation très très intense de ces plissements. Leur relation avec le développement fonctionnel, la spécialisation fonctionnelle est pas encore très claire chez le fœtus. On sait que certains grands sillons sont des frontières fonctionnelles précises, mais par contre, les petits sillons qui vont se former vers la fin de la grossesse, là, leur rôle est plus problématique. Enfin, mystérieux.
Arnaud Caca.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise maintenant ces plissements, l'organisation de ces plis, comme des indices du développement du cerveau fœtal, et qu'on peut mettre en lien ces indices-là avec le développement cognitif ultérieur, qu'il soit normal ou pathologique. Donc, l'étude de ces plissements, c'est vraiment une fenêtre sur une période qui est difficile d'accès, qui est la période fœtale.
Et on viendra bien sûr tout à l'heure sur les troubles du développement cérébral au stade fœtal, mais dans un instant, on va poursuivre dans ce que c'est que cette formation du cerveau chez les fœtus, et notamment dans ce que perçoivent ces fœtus in utero.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit cet épisode de la science CQFD avec vous, Jessica Dubois et Arnaud Caca, sur le développement cérébral chez les fœtus. Alors, on peut parler déjà du milieu dans lequel grandissent ces fœtus et se développent ces fœtus. Jessica Dubois, à quoi ressemble l'environnement intra-utérin qui n'est pas du tout un espace de paix, un espace confiné?
Exactement, c'est pas un espace de tout repos. C'est un espace très bruyant, d'abord, effectivement, avec les bruits cardiaques, de respiration, digestif de la maman. Donc, beaucoup de bruit, beaucoup de mouvement aussi quand la maman bouge. Donc, le bébé est secoué aussi, in utero. Un espace qui est lumineux selon le moment de la journée, variable, mais avec très peu de détails visuels, bien sûr. Que dire de plus ? C'est un espace dans lequel il y a de la place au début, et puis il y en a beaucoup moins à la fin de la grossesse, donc avec à la fin un bébé qui est quand même très coincé, qui a peu d'espace pour évoluer, et par contre beaucoup de retours de perception tactile du bébé en fin de grossesse, parce que le bébé va être vraiment directement contre la paroi utérine.
Vous parlez, Jessica Dubois, de cet aspect tactile. J'ai découvert en préparant cette émission que le toucher était le premier sens qui se développait chez les fœtus. Quels sont justement, dans quel ordre se développent les sens ? Ça m'a rendu très curieuse à cette question de cette chronologie-là.
Alors, effectivement, les sens vont aller avec les perceptions que le fœtus peut avoir. Donc effectivement, il va être très tôt avoir des stimulations tactiles, comme je le disais, avec la paroi utérine, aussi avec lui-même, il va pouvoir se toucher. Le sens de l'audition est aussi un sens qui se développe tôt, mais qui va aussi se développer de façon très progressive et qui va continuer à se développer beaucoup après la naissance. Le fœtus va aussi, surtout dans la deuxième partie de la grossesse, avoir son sens du goût qui va se développer.
Ça,
il va
boire,
voilà, tout à fait, son liquide amniotique et être très sensible au contenu du liquide amniotique et s'en souvenir même après la naissance.
Et à ce que mange sa mère aussi, parce qu'apparemment, les sensibilités gustatives des bébés sont directement liées à certains goûts auxquels il aurait été exposé pendant la grossesse, pendant la gestation.
Notamment l'anis, qui a été un des goûts étudié chez des mamans dans le sud de la France.
J'ai appris que l'ail aussi, le cumin, donc c'est incroyable. Donc manger varié, si vous voulez avoir des fingles, si vous voulez, voilà, ça c'est un petit conseil. Et la vue, pour le coup, c'est plus tard.
La vue va être effectivement un sens qui va commencer à se mettre en place pendant la grossesse, avec des stimulations, des voies visuelles relativement endogènes, c'est-à-dire spontanées, mais qui va se développer aussi beaucoup après la naissance, bien sûr, quand le fœtus sera ex-utéro.
Alors, au-delà de l'aspect un petit peu blague que j'évoquais à l'instant sur la différence de goût, peut-être qu'il faut quand même rappeler les développements cérébraux sous-jacents à l'émergence de ces sens chez les fœtus. Qu'est-ce qu'on en sait de ça ?
Alors, pour qu'il y ait un sens des stimulations qui soient perçues par le cerveau, il faut que les organes des sens soient connectés avec les régions du cerveau qui vont traiter ces informations-là. Et ces connexions-là, elles vont commencer à se former vers 5-6 mois de grossesse, à partir de structures qui sont au centre du cerveau, comme qu'on appelle notamment le thalamus. Et ce thalamus, il va développer des connexions vers la plaque corticale, et notamment une structure de neurones qui forme la plaque corticale et qui va être là de façon transitoire dans le cerveau et qui va traiter les informations qui viennent du thalamus.
Donc finalement, l'émergence de ces sens témoigne d'une caractérisation du cerveau en aire structurée, finalement, déjà dès le stade fœtal.
Alors, cette spécialisation des aires, elle est encore mal connue. Effectivement, on pense que il y a déjà une pré-spécialisation, c'est-à-dire que les informations visuelles vont être préférentiellement envoyées vers des régions qui vont traiter les informations visuelles par la suite. Mais à nouveau, à cet âge-là, le cerveau fait preuve d'une très grande plasticité. Et donc, s'il y a une modification et que finalement, ces aires visuelles, par exemple, ne traitent plus d'informations visuelles, elles pourront éventuellement traiter d'autres choses.
Arnaud Cacquia, on parlait tout à l'heure de l'ouïe chez le fœtus. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que cet environnement bruyant qu'on décrivait tout à l'heure, mais aussi où on entend des voix lointaines, prépare le cerveau du fœtus à l'expérience du langage? En préparant cette émission, je disais qu'il y avait une méta-analyse qui était parue en 2023 dans la revue BMC Pediatrics, qui montrait l'existence chez le fœtus en fin de gestation, après 35 semaines, de réactions complexes devant des phonèmes différents. Des réactions de surprise du fœtus selon qu'on prononçait ga ou ba. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, comme point.
Oui, tout à fait. Parce que le fœtus a accès à des sons qui vont venir soit directement de la mère, soit qui vont venir de l'extérieur à travers le ventre. Et un mécanisme qui est important pour la mise en place des sens, c'est à la fois un cerveau qui va avoir une structure et une organisation qui va lui permettre de pouvoir traiter des informations, par exemple sonores, et nourri par des stimuli auditifs, il va pouvoir développer des capacités d'analyse de ces sons. Et donc, si le fœtus est exposé à des sons du langage, eh bien, il va être capable de distinguer ces différents sons. Il ne sera pas capable de distinguer aussi bien d'autres sons. Le fœtus, par exemple, va être capable de distinguer le son de la voix de sa mère du son de voix d'autres personnes. Il va être capable de distinguer le son de la voix humaine avec d'autres sons qui ne sont pas des sons de voix. Tout ça parce que il va être exposé à différents types de sons qui vont affiner en quelque sorte l'organisation qui va être codée beaucoup plus précocement dans le cerveau.
Petite question, mais là c'est vraiment de la curiosité personnelle. Comment on mesure la surprise d'un fœtus? Parce que ça m'intrigue, Jessica Dubois. Est-ce que c'est l'accélération du rythme cardiaque? On imagine bien que le fœtus ne va pas lever la main ou sursauter, ou peut-être qu'il sursaute si d'ailleurs.
Alors effectivement, le rythme cardiaque, c'est un bon indice de la surprise du fœtus. Je pense que ces mouvements aussi peuvent être mesurés. Après, c'est vrai que les autres outils qu'on va pouvoir utiliser chez le nouveau-né, on n'y a pas forcément accès chez le fœtus, notamment la dilatation de la pupille peut être regardée chez le nouveau-né ou d'autres marqueurs.
Arnaud Cacquia, vous avez peut-être des indices à nous donner sur ces méthodes, en tout cas employées pour mesurer la surprise des fœtus à l'écoute de certains sons?
Moi, c'est ce que disait Jessica, c'est typiquement des indices comportementaux qu'on utilise chez le bébé. Donc le mouvement, des mouvements un peu plus brusques, qui ne sont pas des mouvements attendus. Il y a des mouvements de succion qu'on a chez le bébé, je ne sais pas si on peut les mesurer.
Effectivement, on peut les mesurer, mais de façon moins fine que chez le nouveau-né. Chez le nouveau-né, on peut avoir des tétines qui vraiment mesurent le taux. Là, chez le fœtus, ça sera différent.
C'est merveilleux, ces tétines qui sont connectées, c'est sublime. Alors, puisqu'on parle du nouveau-né, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est que la naissance, tout ne s'arrête pas à la naissance, d'un point de vue neurodéveloppemental. Jessica Dubois, que sait-on des changements qui s'opèrent à ce moment qu'on qualifie souvent de catastrophe, d'un point de vue de toutes les modifications que ça implique?
Oui, c'est souvent, on parle de la naissance comme le plus grand stress de la vie, avec effectivement des modifications massives, changement de milieu. On passe d'un milieu aquatique à un milieu de l'air. Donc le bébé doit se mettre à respirer spontanément. Ça a implique des changements massifs également au niveau vasculaire et tout se modifie au niveau du bébé. Notamment, le bébé va se... On peut observer une déshydratation massive du bébé après la naissance. Tout le système digestif doit se mettre en route. Et donc, vraiment, sur le moment de la naissance, il y a ces hormones de stress qui sont mesurées et qui semblent être vraiment importantes pour que tout se mette en route. Cette respiration spontanée et l'ensemble des changements physiologiques liés à la naissance.
Arnaud Cacquia ?
Alors, au niveau cérébral, il y a des résultats très récents qui montrent qu'on observe aussi des changements en termes de connectivité cérébrale, c'est-à-dire comment les différentes régions du cerveau sont connectées entre elles, notamment au niveau de la connectivité fonctionnelle, comment les régions communiquent les unes avec les autres. Et ce que l'on voit, c'est que avant et après la naissance, on a un saut quantitatif en termes de connectivité qui traduit certainement le fait que après la naissance, les stimulations sont beaucoup plus fortes en termes de bruit, en termes visuels. Et puis, on a des changements également sur la forme du cerveau. Alors, ça, on ne sait pas encore trop exactement. Est-ce que ça a à voir avec la déshydratation? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui sont à l'œuvre? Mais juste avant la naissance et juste après la naissance, le cerveau est un petit peu différent. Notamment, il est un peu plus plissé après la naissance. Et ça, on ne sait pas trop pourquoi encore.
Jessica Dubois, est-ce que ça a à voir avec certains des travaux que vous avez conduits, notamment qui mettaient en avant une forme d'asymétrie de développement des régions du cortex cérébral ou bien pas du tout?
Alors, ces asymétries, elles semblent déjà être présentes chez le fœtus, oui. Donc de façon non impactée, a priori, par la naissance. Et ça, ces asymétries, elles semblent vraiment être reliées au fait que les deux hémisphères du cerveau ne sont pas identiques. Et très tôt, déjà dans leur formation, les réseaux qui vont se développer dans chacun de ces hémisphères vont être connectés un petit peu différemment. Selon les hémisphères, notamment le réseau qui est lié au langage, qu'on sait qu'il va être principalement spécialisé dans l'hémisphère gauche, il semble être plus massif, plus développé déjà très tôt dans le cerveau du fœtus.
Arnaud Cacquia, tout ne s'arrête donc pas heureusement à la naissance, ni justement au moment du stade fœtal. Qu'est-ce qui se poursuit en matière de neurodéveloppement après la naissance d'une façon particulièrement aiguë?
Alors déjà, un point qui est important, c'est que l'ensemble des mécanismes qui commencent durant la vie fœtale et qu'a détaillé tout à l'heure Jessica, se poursuivent pour nombre d'entre eux après la naissance et même à des âges assez avancés, jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire au niveau cérébral, jusqu'à à peu près 20-24 ans. Alors, qu'est-ce qui va se développer beaucoup après la naissance? Eh bien, c'est la neurogénèse, qui est un petit peu moindre que pendant la vie fœtale, mais qui continue un petit peu en début de vie. Et également, la connectivité synaptique. Jessica a mentionné tout à l'heure le fait que les différents neurones allaient essayer de se connecter les uns avec les autres. Eh bien, cette synaptogénèse, elle explose pendant le développement par la suite. Et c'est un des mécanismes qui a la base de l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage au niveau perceptif, la meilleure perception des sons, des visages, et également, durant l'enfance et l'adolescence, l'apprentissage des domaines cognitifs de haut niveau.
Jessica Dubois.
Il y a aussi le fait que ces connexions dont on parlait avec Arnaud, elles vont devenir plus, on dit, myélinisées. Mm-hmm. Et ça, ça va permettre vraiment aux informations d'être conduites beaucoup plus rapidement entre les régions du cerveau. Donc les informations vont voyager d'une région à l'autre beaucoup plus vite. Et finalement, en fait, le bébé perçoit déjà beaucoup, mais lentement.
Alors, c'est Arnaud Cacquia, vous voulez...
C'est juste pour compléter en disant que le cerveau, c'est une machine qui est très bien huilée, enfin, en tout cas, à l'âge adulte, elle devient très bien huilée, et pour faire tous ces petits ajustements, pour que les informations qui viennent des différentes régions cérébrales arrivent exactement au bon moment, on a besoin d'ajustements très précis, et c'est ce que permet notamment la myélinisation, c'est-à-dire que l'information qui vient, par exemple, des régions visuelles, pour aller dans les régions motrices, il faut une synchronisation extrêmement précise, et c'est ça que permet... tout le développement typiquement après la naissance.
On parle, alors là c'est un peu de la science de comptoir, mais il y a quelques jours j'ai entendu parler du fait que le cerveau des enfants jusqu'à un certain âge était sur une fréquence d'onde qui était quasiment la même que celle d'un certain type de sommeil où on rêve beaucoup. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout, ou bien est-ce que je remets ma question dans ma poche et on avance, on va avancer puisque c'est pas grave. C'est de toute façon, ça ne concerne pas le cœur de notre sujet qui est le développement du cerveau au stade fœtal, et on va revenir à cette question-là puisque maintenant on a évoqué la question de ce développement. On va parler des troubles qui peuvent empêcher ce bon développement du cerveau au stade fœtal. On se retrouve dans un instant, ce sera juste après la pause musicale. Par Adrian Lenker dans la science CQFD sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui de la vie in utero, du développement fœtal et en particulier du développement du cerveau durant cette période de gestation. Nous en parlons avec Jessica Dubois, chercheuse à l'INSERM, spécialiste du neurodéveloppement et de son imagerie, avec Arnaud Cacchia, professeur de neurosciences à l'Université Paris Cité et directeur adjoint du Lapsidé à l'Université Paris Cité et au CNRS. Après avoir parlé du développement cérébral du fœtus et de ce que ce développement permet de mettre en place, notamment en termes de perception, on va s'intéresser à présent à ce qui peut créer des troubles de ce développement et on va partir tout de suite d'un exemple. Il est l'heure de partir en reportage. Les trajectoires de développement du fœtus peuvent toutes être affectées par différents pathogènes et on va s'intéresser à l'un d'entre eux dans notre reportage. Bonjour Loïc Dutoit.
Bonjour Antoine.
Vous êtes rendu à l'hôpital Necker enfant malade pour suivre la consultation d'une mère dont le fœtus est atteint du cytomégalovirus.
Oui, le cytomégalovirus est aussi souvent appelé CMV. Il s'agit de l'infection acquise durant la vie intra-utérine la plus courante. Et en France, elle est la première cause de surdité chez l'enfant, en plus d'être responsable d'un certain nombre de troubles neurologiques. Depuis juin 2025, la Haute Autorité de Santé recommande la mise en place d'un dépistage systématique du cytomégalovirus chez la femme enceinte. Car si l'infection est diagnostiquée suffisamment tôt, il est possible de prendre un traitement qui permet à la fois de diminuer le risque de transmission entre la mère et le fœtus, mais aussi d'affaiblir le virus et d'empêcher les conséquences les plus délétères. Quand on sait qu'un fœtus est infecté, son développement est suivi avec beaucoup d'attention afin de s'assurer que ce traitement est efficace. Et pour le faire, le meilleur examen reste encore l'échographie.
Moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 36 ans et c'est mon troisième enfant, c'est ma troisième grossesse. Alors, je suis ici parce que j'ai eu la chance d'être diagnostiquée précocement comme étant porteuse du CMV dans mon premier trimestre de grossesse, qui est assez important parce que ça a des risques qui peuvent être considérables pour le fœtus. Et donc, j'ai été prise en charge à Necker et j'ai pris le traitement très tôt.
Donc, on parle à peu près d'un enfant sur 1000 qui va naître avec des séquelles plus ou moins importantes de l'infection à cytomégalovirus.
Yves Ville, gynécologue qui dirige la maternité de l'hôpital Necker enfants malades.
Et ceux qui vont être sévèrement atteints, c'est à peu près 600 enfants par an en France. La séquelle minimale, c'est l'hypoacousie, c'est-à-dire qu'on entend moins bien d'une oreille. Hypoacousie unilatérale, donc d'une seule oreille.
Et donc là, la consultation d'aujourd'hui, c'est une consultation de suivi pour savoir si ce traitement fonctionne sur vous, en l'occurrence, et votre enfant.
Surtout pour savoir en fait si le fœtus présente d'éventuelles séquelles ou d'éventuels signes du fait que le CMV ait pu atteindre certains organes ou... Voilà, parce que c'est ce qui est difficile, c'est que il y a beaucoup de cas dans lesquels le CMV ne va pas avoir d'impact sur le bébé, mais dans certains cas, il peut y avoir des impacts qui sont graves, comme des retards mentaux ou une perte d'audition. Et donc là, on est censé checker un peu tous les organes du bébé pour voir si certains ont des réponses qui pourraient laisser penser que le CMV les a atteints et que le bébé puisse avoir un problème.
Il y a un principe général en échographie fœtale, donc prénatale, on ne va trouver que ce que l'on cherche. Et dans le cadre de l'infection à cytomégalovirus, on sait très précisément quelle région de l'anatomie fœtale le virus peut endommager et à quel stade de l'infection. Installez-vous, je sens.
C'est le sexe du bébé,
non ? Oui. Ouais.
Donc on est à 26 semaines, donc ce fœtus doit peser entre 800 grammes et 1 kg à peu près. Alors c'est froid, on n'a pas encore remis en route le chauffage du gel, ça ne saurait tarder. Ce fœtus a les fesses en bas, là, voilà son petit cœur, donc il va bien. Il bat deux fois plus rapidement que le vôtre, comme attendu. Le voilà de profil, là, vous voyez, il est en train de nous dire un truc, je ne sais pas exactement quoi. Alors, on regarde l'intestin. Et cet intestin, il a un aspect échographiquement tout à fait habituel. Okay. On est dans du gris, comme vous voyez à l'échographie, on est dans une échelle de gris permanente. Hein. Donc l'intestin, il a une certaine échogénicité, c'est-à-dire un certain gris à l'échographie. Et c'est ce qu'on veut, il est comme il est, là, il est tout à fait comme on attend. Le virus, lui, peut, dans certains cas, atteindre cet intestin, bloquer temporairement son transit. Donc à ce moment-là, l'intestin apparaît extrêmement blanc. Et le virus peut même faire des trous dans l'intestin. Et à ce moment-là, on a un peu de liquide autour de l'intestin. Ce n'est absolument pas le cas là, voilà, donc c'est très bien. Ensuite, on va s'intéresser à son foie, puisque comme tous les virus peuvent causer des hépatites, et on peut avoir un gros foie à cause du virus, on va mesurer la hauteur du foie, et on a 29 mm, ce qui est tout à fait normal pour ce terme. Ensuite, donc, on arrive sur le cerveau, ce qui est l'élément le plus important, évidemment, pour ce qui concerne l'impact que peut avoir le virus sur le fœtus. Ici, vous voyez la limite du cerveau, ici, c'est l'os du crâne, et on voit que ce cerveau remplit très bien la tête de ce bébé, ce qui est important, parce que dans des infections graves à CMV, la croissance du cerveau peut être ralentie, alors que la dimension complète de la tête peut rester tout à fait normale pendant un moment. Et puis, on regarde de façon plus précise. Alors pour ça, je vous embête un petit peu. Je bouge un peu ce petit lapin. On profite du fait que les fœtus, jusqu'au nouveau-né, ont ce qu'on appelle des fontanelles, qui sont des espaces un peu membraneux qui joignent les os du crâne, qui nous donnent une vraie fenêtre sur le cerveau. Parce que si on se met au-dessus de l'os, on ne voit rien. Pas suffisamment, en tout cas. Donc le sourcil médian, là, vous voyez, cette espèce d'espace noir au milieu qui fait comme un sourcil. Là, c'est ce qu'on appelle le corps calleux, ce qui fait la jonction entre la droite et la gauche du cerveau. Et c'est tout à fait bien développé chez ce fœtus, en longueur, en épaisseur, en tout ce qu'on veut. Et puis, cette petite queue blanche qui a l'air de rien, c'est le tronc cérébral, c'est ce qui nous permet d'avaler et de respirer sans s'étouffer. Donc ça, c'est parfait. Donc, on est tout à fait rassurant sur l'aspect de ce cerveau. Voilà. Donc, en gros, on a fait le bilan de ce petit. Son placenta, il pourrait nous montrer ce qu'il veut, on s'en fiche complètement, puisque de toute façon, on sait qu'il a laissé passer le virus de toute manière. Mais il a un aspect, par ailleurs, là, en l'occurrence, il a un aspect parfaitement compatible avec son âge, il ne montre pas lui-même de signes d'infection, comme quoi vous aviez eu la prévention secondaire. Certes, elle n'a pas suffi à empêcher le virus de passer, mais enfin, sûrement largement contribué à faire qu'une quantité moins importante de virus passe. Hein. Voilà. Là, on voit strictement rien de suspect à échographie.
C'est grâce à quoi que vous avez été dépisté ? C'est dans quel cadre que vous avez suivi un dépistage pour le CMV ?
Oui, alors en fait, moi je suis quand même assez carrée dans mes suivis de grossesse. J'étais au courant de l'infection CMV. Je savais que c'était dangereux, je savais que je ne l'avais jamais eu parce que j'ai eu deux grossesses avant, deux enfants et j'ai été testée à chaque fois. J'ai deux enfants qui étaient à la crèche, donc c'est vraiment un risque important parce qu'en fait, le CMV, il faut savoir que ça circule énormément à la crèche chez les jeunes enfants de moins de 3 ans. quand je suis tombée enceinte, j'ai fait moi-même une sérologie CMV pour savoir où j'en étais. Elle était négative. Et ma gynécologue préconisait ce test-là. Et en fait, il s'est avéré que c'était positif. Donc en 6 semaines, j'ai été infectée. Mais c'est vrai que beaucoup de femmes ne sont pas au courant et s'en rendent compte au fur et à mesure de leur grossesse parce qu'il y a un problème, en fait. D'où l'importance de dépister vraiment tôt pour pouvoir bénéficier d'un traitement et éviter ce genre de séquelles qui peuvent être dramatiques.
Ça fait plusieurs années que lorsqu'on rentre dans ce schéma prospectif de dépistage, diagnostic, pronostic, sous traitement, on ne voit plus de cas gravissimes du tout.
Le traitement est très efficace.
Voilà. Les cas gravissimes que l'on voit, ce sont des dames qui n'ont pas eu de dépistage et dont le diagnostic a été évoqué par des images échographiques déjà très inquiétantes.
Est-ce que je peux vous demander le terme de votre grossesse ?
Alors, le terme de ma grossesse, c'est le 13 janvier, mais le problème avec les infections CMV, c'est qu'il peut y avoir des bébés qui ne supportent pas de naître à terme, donc c'est-à-dire à 41, donc je vais être déclenchée plus tôt.
Bon courage.
Merci.
En tout cas.
Merci beaucoup Loïc Dutoit. Votre reportage est à retrouver comme chaque jour dans notre collection de podcasts La Science au Labo sur l'appli Radio France, mais aussi bien sûr sur la page de La Science au Labo sur le site de France Culture, franceculture.fr. Jessica Dubois, une réaction à ce reportage à l'hôpital Necker et à cette exposition à un virus qui peut entraîner des troubles neurodéveloppementaux.
Alors peut-être deux réactions. Effectivement, le fait de pouvoir dépister le plus tôt possible pour prendre en charge le plus tôt possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est majeur. Et puis aussi, un autre point qui a été abordé sur la variabilité, finalement, entre comment le bébé va réagir, entre guillemets, à ce fœtus. Et donc, vraiment, la nécessité d'un suivi individuel. On ne va pas pouvoir prédire comment ça va évoluer sans vraiment suivre ce qu'il en est pour chaque enfant.
Et là, on voit que le suivi, à nouveau, passe par l'imagerie, l'échographie simple.
Oui, parce que cette échographie permet quand même de bien voir les choses et d'explorer l'ensemble du fœtus et des organes qui peuvent être touchés par ce virus.
Oui, parce qu'il n'y a pas que le cerveau qui est concerné. Arnaud Kaka, une réaction également à ce reportage.
Oui, peut-être de réaction aussi. Premièrement, le fait que la période fœtale, c'est une période qui va poser les fondations du développement cérébral, mais aussi cognitif ultérieur. D'où le fait que si vous avez des atteintes, par exemple ici avec une atteinte virale avec le CMV, eh bien, ça peut, dans certains cas, influencer le développement cognitif ultérieur. Et puis revenir sur cette question de variabilité interindividuelle, qui est toujours très importante quand on s'intéresse au développement. Notamment parce que les troubles cognitifs, ou de manière générale le fonctionnement cognitif, c'est un mécanisme très complexe et on a ici un facteur qui est un facteur viral qui va influencer le développement cérébral, mais on a plein d'autres facteurs de risque ou de résilience qui vont faire qu'au final, avec le même type d'infection, eh bien, on va avoir des conséquences très différentes.
Jessica Dubois, on parle du cytomégalovirus dans ce cas-là. Est-ce que d'autres familles de virus peuvent avoir des conséquences potentiellement lourdes sur le développement cérébral au stade fœtal?
Alors j'ai la toxoplasmose qui me vient en tête, qui est effectivement aussi détectée pendant la grossesse. Après, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs non viraux, mais on peut citer notamment l'alcool, en fait, l'exposition à l'alcool, qui vraiment peut avoir un impact majeur sur le développement du cerveau et d'autres organes du bébé.
Oui, parce que le développement est sensible à une certaine chimie. L'alcool fait partie de cet environnement chimique et de ces expositions chimiques. Arnaud Kaka, quelles sont les autres expositions d'une certaines façons qui peuvent entraîner des troubles neurodéveloppementaux au stade fœtal?
Alors peut-être juste revenir sur la question des virus, qu'il y a une question, je pense, que tout le monde se pose après la période Covid, c'est le SARS-CoV-2, le virus qui était à l'origine de la maladie du Covid. Et on a maintenant suffisamment de recul pour dire que une infection durant la période de grossesse, la période fœtale, n'a pas de conséquences mesurables. Là, on est à 5 ans. Alors peut-être qu'il y aura des conséquences à l'adolescence ou à l'âge adulte, mais en tout cas, avec le recul qu'on a actuellement, on n'a pas de conséquences, ou alors elles sont minimes.
Je voulais juste ajouter Zika, virus Zika,
Catastrophique
pour le début.
Ensuite, pour les autres facteurs, eh bien, c'est tous les facteurs qui vont auxquels le fœtus va pouvoir être exposé. Donc, effectivement, l'alcool qui joue un rôle très important, notamment des grandes consommations d'alcool qui vont faire le syndrome d'alcoolisation fœtale. L'exposition différents types de toxiques, le tabac, le cannabis, la cocaïne. Quand on parle de l'alcool, c'est même une seule quantité, une seule exposition à l'alcool. Enfin, il faut limiter autant que possible et le plus possible. On a aussi le polluant, tous les polluants chimiques dans lesquels on est exposé, et notamment les polluants qui peuvent avoir un impact sur le système hormonal, sachant que les hormones sexuelles, en particulier, jouent un rôle très important sur le développement du cerveau. Et donc, toutes les polluants qui vont modifier les taux d'hormones sexuelles in utero peuvent avoir des conséquences problématiques.
La question aussi du stress, Jessica Dubois, est importante en matière de développement cérébral. Qu'est-ce qu'on en sait justement de cette exposition à un stress maternel, pour le coup, pour le fœtus?
Alors, il y a pas mal d'études qui ont montré pas directement les effets sur le fœtus et son cerveau, mais sur les effets, en fait, une fois que le bébé est né. Donc, ce sont des études de corrélation. Donc, la causalité est toujours...
multifactorielle,
voilà.
C'est complexe. Quand même.
Mais effectivement, un stress maternel élevé pendant la grossesse va être lié à un développement différent de certaines structures du cerveau du nouveau-né.
Arnaud Kakia.
Et ce qu'il faut voir, c'est que tous ces facteurs qu'on vient de mentionner, en fait, sont fortement corrélés au niveau socio-économique des parents. Ce qui explique aussi pourquoi l'environnement socio-économique joue un rôle important sur le développement cérébral, en particulier le développement fœtal.
De quel type de troubles, pour le coup, post-nataux, troubles cérébraux post-nataux, on peut parler justement à partir de ces expositions-là au stade fœtal?
Alors, on a des troubles qui sont... assez important. Ça peut être si on a des anomalies génétiques, par exemple, qui vont se caractériser par des troubles très importants avec du retard mental. Mais on peut avoir aussi, et c'est souvent le cas, une intrication de différents facteurs qui vont aboutir ou pas, dans certains cas, à des troubles cognitifs ou à des troubles psychiques. Donc on n'a pas, il n'y a pas, bon, sauf pour des atteintes extrêmement sévères, avec une infection virale très importante ou certaines anomalies génétiques très importantes. Mais sinon, c'est vraiment l'interaction de différents facteurs qui, au final, va avoir un impact. Donc le fait de boire un verre de vin pendant la grossesse, ou le fait d'avoir été stressé un moment pendant la grossesse, ou le fait d'avoir attrapé, d'avoir eu un virus pendant la grossesse, en tant que tel, séparément, ça ne permet pas d'expliquer, il ne va pas y avoir une conséquence directe pour le développement d'une pathologie. En revanche, quand on a la combinaison de différents facteurs dans ces troubles complexes que sont les troubles cognitifs, eh bien, on peut avoir l'émergence d'un trouble, ou par exemple un trouble neurodéveloppemental type autisme, type TDAH ou trouble des apprentissages, qui sont des troubles du neurodéveloppement.
Là aussi, c'est très compliqué, Arnaud Kakia, parce qu'il faut aussi faire la part des choses. Tout ne se joue pas au stade fœtal. Il ne faut pas être trop déterministe non plus et pas dire que finalement, c'est déjà extrêmement culpabilisant si on est enceinte et que... Alors, ce ne sera pas mon cas, mais si une dame est enceinte, si une femme est enceinte et qu'elle subit un stress important, qu'elle se rassure, ça ne va pas forcément avoir des conséquences gravissimes sur son enfant.
Non, c'est en fait, il y a une tension entre à la fois reconnaître que la période fœtale, c'est une période critique du développement du cerveau et dans laquelle certains facteurs de risque peuvent avoir des effets délétères. Mais d'un autre côté, comme vous le dites, ça n'est pas déterministe, tout n'est pas joué à la naissance et on a bien sûr des mécanismes de résilience après la naissance qui vont pouvoir compenser certains facteurs de vulnérabilité qui sont très précoces.
Jessica Dubois, on parle là du développement du cerveau. Est-ce que, si on en revient à la physiologie, cet organe-là est plus sensible, plus fragile que d'autres organes? On entendait parler tout à l'heure du foie, de l'intestin. Au moment, au stade fœtal, est-ce qu'il est plus sensible, ce cerveau, à ces expositions-là, à des troubles en particulier?
Alors, c'est un organe qui est très vulnérable, comme on le disait, mais il y a d'autres organes qui sont aussi très, très vulnérables, notamment les poumons, le système digestif. Mais ce qui est important, vraiment, avec ce développement du système nerveux, c'est que, potentiellement, les conséquences d'altération peuvent se jouer sur l'ensemble de la vie de la personne. Bon, ça peut être le cas également pour les autres organes, mais l'impact, on va dire, sur la qualité de vie à venir de l'enfant et de l'adulte est peut être moins important. Et effectivement, ce cerveau, on parlait du fait qu'il est extrêmement vulnérable à cet âge-là, mais il montre aussi une plasticité qui est vraiment très importante. Donc, malgré cette vulnérabilité, il peut y avoir des facteurs qui vont pouvoir contribuer à quand même compenser d'une certaine façon.
Arnaud Kaka, on n'a pas abordé une autre question très importante concernant l'étude de ce développement fœtal et de ce développement cérébral au stade fœtal. C'est la dimension éthique, philosophique que posent ces études-là. Pourquoi sont-elles particulièrement sensibles? Quels sont les enjeux sous-jacents à ces études-là?
Un des premiers enjeux, on vient d'en parler un petit peu, c'est l'aspect déterministe. C'est pas parce que la période fœtale joue un rôle important que ça veut dire que tout est joué à la naissance. Comme l'a dit Jessica, il y a des mécanismes de plasticité, de résilience par la suite. Deuxièmement, il y a des questions qui sont assez classiques, qui est de savoir que faire de cette information, comment traiter cette information de risque, savoir que vous avez 5%, 2%, 10%, 20% de risque de développer tel ou tel trouble. C'est des chiffres statistiques. Qu'est-ce qu'on en fait au niveau individuel? Est-ce que quand on est une maman enceinte, on a envie d'avoir ces informations ou pas? C'est la liberté de savoir ou la liberté de ne pas savoir. Toute la question de ces facteurs de risque, à quel point ça peut prédire ou pas l'avenir, ça c'est des questions qui sont très compliquées. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? La question générale, c'est il y a des informations qui sont importantes pour le scientifique, pour qu'on ait des mécanismes, des informations qui sont importantes pour le clinicien, et puis d'autres informations qui sont importantes pour la mère et les futurs parents, et c'est pas toujours exactement les mêmes informations.
Jessica Dubois, ça pose aussi cette question de l'émergence de substrats neurologiques qui permettent une certaine cognition, pose la question de à quel moment on parle d'un être conscient ou pas, et là ça nous emmène sur des terrains extrêmement virulents et de débats idéologiques qui opposent, qui mettent les anti-avortements finalement face à la science d'une certaine façon.
Tout à fait, et c'est vraiment une question qui est difficile à investiguer chez le fœtus. Il y a encore beaucoup de recherches, vraiment beaucoup de débats, même entre chercheurs, sur à quel moment pourrait-on dire parler de conscience chez le tout-petit. Il semble qu'il faut déjà qu'il y ait des informations sensorielles qui arrivent au cerveau. Donc on a parlé tout à l'heure de ces informations qui sont transmises entre le thalamus et la plaque corticale, où est traité ça. Ça, ce serait autour de 24 semaines de grossesse, où on pourrait penser que, voilà, ça, c'est la base pour qu'il y ait l'émergence de conscience. Après, quand on parle de conscience chez le fœtus, ça va plus être de la conscience des informations de l'environnement plutôt que d'une conscience de soi-même, comme cela peut nous évoquer ensuite chez le plus grand.
Arnaud Kaka.
Ensuite, juste pour repréciser les termes, c'est que on s'intéresse là depuis le début d'émission à la période fœtale et l'avortement que vous avez mentionné ne concerne pas la période fœtale. Ça concerne la période de l'embryon, pas du fœtus. Donc tout ce que l'on a dit là échappe à la question du choix et du moment d'avortement. Deuxièmement, concernant la conscience, d'un point de vue scientifique, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas encore, même chez l'adulte, de signature physiologique de la conscience. On a des marqueurs, on va dire, on peut caractériser la conscience en termes de est-ce qu'on peut rapporter une information. On peut avoir aussi chez l'adulte une réflexivité qui sous-tend la conscience. Chez le fœtus, bien sûr, le fœtus n'a pas de langage. On n'a pas de mesure encore physiologique de la conscience. Donc, on a des théories, on a des résultats sur le traitement de l'information, le traitement des stimuli, mais de savoir si le fœtus est conscient ou pas, on n'en sait rien, et je pense qu'on ne pourra pas en savoir beaucoup plus tant qu'on n'aura pas avancé sur ces recherches sur la conscience.
Puis on en revient aussi d'une certaine façon à cette question de la mémoire. Est-ce qu'un être sans mémoire est un être qu'on peut qualifier de conscient? Ça aussi, c'est une question qui...
Et sans langage.
Sans langage, bien sûr. Oui. Alors, Jessica Dubois, pour conclure cette émission, peut-être un indice sur un des pans de recherche particulièrement dynamique qui est au cœur de ces recherches sur le développement cérébral du fœtus. Aujourd'hui, quels sont les sujets chauds, en gros?
Alors, je dirais qu'il y en a beaucoup. La conscience, la conscience en est un. Je dirais aussi que la façon dont les différentes régions cérébrales perçoivent ces stimuli et qu'est-ce qui va faire que certaines régions vont se spécialiser, c'est également un sujet qui est vraiment important aujourd'hui.
Eh ben, on suivra ça de très près. Merci beaucoup à tous les deux, Jessica Dubois, Arnaud Kaka, de nous avoir expliqué comment se développait le cerveau chez le fœtus. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo pour sa chronique Avec Science. Il ne vous aura pas échappé que cette semaine, c'est la semaine des prix Nobel. Aujourd'hui était remis à Stockholm le prix Nobel de physique.
Le prix Nobel de physique 2025 vient d'être décerné à trois chercheurs. John Clark de l'Université de Californie à Berkeley, John Martinez de l'Université de Californie à Santa Barbara et cocorico, un Français, Michel Devoré, également à Santa Barbara et à l'Université de Yale. Et aujourd'hui, la physique quantique est à l'honneur. L'Académie royale des sciences de Suède récompense ces trois chercheurs pour la découverte de l'effet tunnel macroscopique. Pour comprendre ce phénomène, imaginez que vous lancez une balle contre un mur. En physique classique, la balle rebondit et revient vers vous. Mais en physique quantique, en revanche, il existe une petite probabilité pour que la balle passe à travers le mur. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Frédéric Pierre est directeur de recherche CNRS au C2N, le centre de nanosciences et de nanotechnologie.
Donc l'effet tunnel, effectivement, ça correspond tout à fait avec cette image-là. On a un mur que classiquement, il serait impossible de traverser. Mais que, d'après les règles de la physique quantique, un état décrit donc par cette physique quantique va avoir une probabilité non nulle de pouvoir traverser. Donc l'effet tunnel, quelque chose de drastiquement différent de ce qu'on a l'habitude, nous, à notre échelle en physique classique. Et donc ce que Michel Devoré a démontré avec ses collègues John Martinez et John Clark, quand il était à Berkeley, c'est que cet effet tunnel, il se produisait pas seulement pour des états élémentaires comme des électrons, mais qui pouvait se produire pour des états quantiques macroscopiques, c'est-à-dire constitués par un grand nombre, des milliards d'électrons.
Pour observer ce phénomène, les trois chercheurs ont conçu un circuit électronique supraconducteur. Dans un matériau normal, les électrons circulent sans organisation particulière, mais dans un supraconducteur, ils s'associent par paires et l'ensemble de ces paires d'électrons forment un seul état quantique collectif. C'est précisément ce principe que les trois lauréats ont exploité dans leur expérience. Ils ont créé un circuit supraconducteur séparé en deux par une barrière physique, théoriquement infranchissable selon la physique classique. C'est l'exemple de notre balle de tout à l'heure. Et pourtant, ils ont observé que les électrons parvenaient à la traverser comme s'ils formaient un seul et même objet quantique à l'échelle du dispositif, donc à l'échelle macroscopique.
C'est vraiment le point clé, quoi. Le fait que c'est des objets qui traversent sont plus des objets élémentaires, mais des objets qui sont décrits, qui sont constitués de milliards d'électrons. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est très contre-intuitif parce que d'habitude, quand on augmente le nombre d'objets qui interagissent les uns avec les autres, l'interaction, le couplage de ces objets les uns avec les autres sont à l'origine de la transition qu'il y a entre une description quantique du monde à l'échelle microscopique et une description classique à notre échelle, nous, macroscopique. Et ce que Michel a démontré, c'est que justement, dans ce type de circuit, quand on avait affaire à des supraconducteurs, on pouvait combiner un objet constitué de milliards de constituants et les lois de la nature données par la physique quantique.
Ce domaine de recherche s'appelle la physique mésoscopique. C'est l'échelle intermédiaire entre le monde microscopique, celui des particules et des lois quantiques, et le monde macroscopique, celui de notre expérience quotidienne. La démonstration de cet effet tunnel macroscopique est au fondement d'une toute nouvelle génération de technologies. Les circuits quantiques, base de l'information quantique, mais aussi les capteurs quantiques et les systèmes de cryptographie quantique. Et pour finir, on sort un petit peu du champ du quantique avec un petit peu d'émotion et de fierté. Car Michel Devoré n'est autre que le directeur de thèse de Frédéric Pierre.
Ah oui, bien sûr, je suis extrêmement fier, mais j'ai toujours eu énormément d'admiration pour Michel Devoré. C'est un physicien avec une profondeur de pensée, de vie, une vision vraiment absolument exceptionnelle. Je suis ravi que cette personne pour laquelle j'ai tant d'admiration ait reçu le prix Nobel. Je pense qu'il est vraiment bien mérité.
Merci beaucoup Alexandra Delbo, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec science et demain ce sera bien sûr le Nobel de chimie. Un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD, Joseph Schlegel, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Natacha Triou qu'on embrasse, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Timothée Hubert. Vous pouvez réécouter cette émission comme toutes les autres sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la science CQFD et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.